Je suis en compagnie de François-Xavier Fauvel. Bonjour, nous parlons de « À la recherche du sauvage idéal », votre dernier livre paru aux éditions du Seuil. Un terme m'a interpellé dès votre prologue, celui d'ethnophanie. C'est un terme, un concept qui vous est propre, et que signifie-t-il ?
Ethnophanie, littéralement, c'est l'apparition au monde d'un peuple. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est faire apparaître, ou plutôt réapparaître, un peuple qui avait disparu de notre monde. Et c'est bel et bien ce processus historique que j'essaye de dévoiler dans ce livre qui est un livre d'histoire, un livre d'histoire de l'Afrique, mais aussi un livre d'histoire de la pensée, un livre d'histoire des représentations, un livre d'histoire d'une disparition et d'une réapparition, celle de ce peuple. Bon. Ce peuple, c'est qui ? Il a d'ailleurs plusieurs noms, c'est les Khoïkhoï, enfin, eux-mêmes s'appelaient les Khoïkhoï, nous sommes des Khoïkhoï, mais ils ont été désignés sous beaucoup d'autres noms et on les a appelés les Hottentots, terme qui a filtré, qui a percolé à travers toute notre culture, dans la littérature philosophique, dans les chansons, dans les étiquettes de vitrines de musées, etc. Ce peuple a disparu, il a explosé au moment de ce qu'on appelle les grandes découvertes, c'est le moment de l'expansion des puissances européennes à travers le reste du monde. Évidemment, le terme de grande découverte occulte toute la partie sombre de ce qu'ont été ces grandes découvertes. Et dans ce grand mouvement d'expansion planétaire, beaucoup de peuples ont disparu, ont fait les frais de ce mouvement d'expansion. Et en particulier, l'un d'entre eux, peut-être plus exemplairement que d'autres, les Khoïkhoï, ont disparu. Et tout le livre, c'est de retrouver ces Khoïkhoï. Les retrouver comment ? Les retrouver, en quelque sorte, dans de nouvelles conditions, c'est-à-dire dans des conditions historiques totalement différentes de celles de leur disparition. Et c'est pourquoi je dis, dans ce livre, dès l'entrée dans ce livre, que ce livre consiste à en quelque sorte réorganiser une rencontre, organiser une nouvelle rencontre après la rencontre ratée d'il y a quelques siècles.
Voilà, tout à fait. C'est le propos, c'est l'ambition de votre livre qui serait celui d'une rencontre, mais pas n'importe quelle rencontre, une rencontre avec l'autre, avec le grand autre, avec l'altérité. Et pour cela, vous allez user d'une méthode particulière qui m'a terriblement stimulé en tant que lecteur parce qu'on retrouve qu'assez peu ceci dans les livres d'histoire, notamment de l'école française, c'est d'avoir une chronologie inversée. Vous écrivez « Parce que cet artifice du récit chronologique serait d'autant plus fallacieux que le lecteur serait de la sorte tenu faussement à l'écart d'une vérité dont il participe, celui du processus historique qui a précisément conduit à la disparition du sujet de livre. » On va assister donc à, justement, un processus historique par votre livre. Et pour cela, vous partez de la Vénus Hottentote.
Oui, alors un mot sur cette écriture en quelque sorte à l'envers, c'est-à-dire que cette écriture consistant à partir du présent pour remonter dans le passé et non pas raconter l'histoire dans l'ordre. Et alors il y a quelque chose effectivement de surprenant, sans doute d'assez original, même si ça a déjà été tenté par quelques historiens et surtout par quelques romanciers d'écrire l'histoire à l'envers, de remonter la vie de l'individu dans le temps. Néanmoins, il y a là une originalité qui n'est pas du tout ni un jeu gratuit, ni une expérience d'histoire, etc., mais qui m'a paru tout à fait naturelle. C'est-à-dire que, au point que je me suis dit, ça n'est pas une façon si originale que ça de raconter l'histoire, c'est en fait la façon de raconter cette histoire-là sous la forme d'une enquête. Bon. Et l'enquête, si on y réfléchit, c'est le mode d'appréhension du réel, c'est le mode de découverte, c'est le mode de résolution de l'énigme qui nous est le plus familier. Regardez toutes les séries que nous regardons, regardez tous les films que nous regardons, regardez les livres, les polars que les gens lisent, c'est la modalité même du récit, c'est la modalité même de retrouvailles avec quelque chose qui s'est passé, qui nous est donné sous la forme de cette enquête. Et le livre, c'est précisément cette enquête qui remonte dans le temps à la recherche des Khoïkhoï, ce peuple disparu. Alors Comment faire? Tout simplement, pour commencer, en ouvrant d'abord un autre livre, en ouvrant un livre de John Maxwell Coetzee, un romancier sud-africain, on y reviendra sans doute tout à l'heure, et puis effectivement avec la Vénus Hottentote, cette femme qui avait été, cette femme d'origine khoïkhoï, d'origine sud-africaine, qui avait été exhibée en Angleterre et en France dans les années 1810, dont les restes était demeuré en France dans les vitrines du musée de l'homme à Paris, dont le corps, dont les organes, dont les ossements avaient fait l'objet de toute une série de débats au XIXe siècle, et qui est revenu au devant de la scène dans les années 2000, lorsque, à la faveur de la chute du régime d'apartheid en Afrique du Sud, des groupes réclament le retour dans leur pays de cette femme dont on découvre à ce moment-là qu'elle a un nom. Ce n'est pas juste la Vénus Hottentote, elle a un nom, c'est Sarah Bartman. Bon. Et donc l'un des chapitres, le deuxième chapitre du livre, effectivement, suit toute cette affaire. Et lui aussi, d'ailleurs, remonte dans le temps, puisque l'affaire se déroule comme ça au début des années 2000, mais elle me permet de remonter ensuite dans le temps, de remonter jusqu'à l'époque de Sarah Bartman et de raconter sa vie, ou plutôt ce qu'on peut en dire, c'est-à-dire sa trajectoire, on pourrait presque dire.
Puisque la manière dont les restes de corps de Sarah Bartman vont être ramenés en Afrique du Sud vont faire l'objet de toute une problématique, de toute une affaire. Et là, je trouve le mot relique. Voilà, c'est des reliques qui vont être ramenées en Afrique du Sud, qui va être une affaire nationale. Et ce n'est pas rien, ce terme relique. Pourquoi on emploie ce terme de relique pour Sarah Bartman?
Alors, c'est vrai que j'emploie ce terme parce que il m'est apparu que exactement comme dans les translations de restes de saints dans le Moyen-Âge occidental, ou d'ailleurs dans le Moyen-Âge éthiopien ou ailleurs, bon, dans toutes les chrétientés du médiévales, on transporte de la sorte des vestiges qui sont autre chose que simplement de simples vestiges, c'est-à-dire qui sont investis d'une valeur que leur accorde une communauté. Bon. Et c'est en cela qu'un vestige devient une relique, c'est-à-dire que lorsqu'il signifie autre chose que simplement les quelques grammes de vestige dont il provient. Et cet investissement-là, en l'occurrence, il relève de l'identité, aussi bien au Moyen-Âge d'ailleurs que dans l'affaire de la Vénus Hottentote ou dans toutes les affaires de restitution, on pourrait dire, hein, de biens culturels ou de biens ou de parties humainement. Et dans ce cas présent-là, ce sont des parties du corps de Sarah Bartman qui sont réclamées, disons-le, par des groupes sud-africains à la France et qui finissent par être rendus par la France à l'Afrique du Sud et qui sont transportés de Paris jusqu'au Cap, à Cape Town, et puis du Cap jusqu'à Port-Élisabeth, et puis de Port-Élisabeth jusqu'à Hanki, l'endroit où ils vont être enterrés, etc. Et dans cette circulation, il y a des translations successives avec des voix qui parlent, voilà, des voix qui disent ce qu'elle est la signification de ces reliques pour elle. Voilà, on entend en même temps des contestations, on entend des dissidences, on entend des divergences, on entend. Bon, mais c'est précisément ça qui est intéressant, c'est ce qui se dit à travers ces étapes successives d'un retour de restes humains vers un petit village de l'est de l'Afrique du Sud.
Parce que ces restes humains n'arrivent pas en un seul morceau. Parce que vous allez nous expliquer ce qui est arrivé à Sarah Bartman à sa mort. Je vous cite. « Dans les tout derniers jours de 1815, ou peut-être le 1er janvier 1816, Sarah Bartman meurt subitement à Paris d'alcoolisme ou de maladie. Cuvier, le grand savant Cuvier, obtient que le corps soit livré à la science et transféré au Muséum d'Histoire Naturelle. » Et là, que va-t-il se passer? Parce que c'est quelque chose quand même qu'on ne comprend plus à notre époque, mais son corps est livré à la science, et la science va en faire quelque chose, parce que la science va vouloir, de l'époque, va vouloir interroger ce corps, parce qu'il y a une problématique derrière, un problème à résoudre, que la science peut examiner à partir de ce corps-là.
C'est tout à fait ça, vous résumez très très bien. Il y a en effet un besoin qu'exprime Cuvier à ce moment-là. Il exprime plus largement ce besoin qu'a la communauté scientifique d'aller voir ce corps. Bon, ça répond également à une curiosité du public d'aller voir ce corps. Pourquoi ? Parce que ce corps, en fait, détient, croit-on, la solution d'une énigme, une énigme anthropologique qui est celle de savoir s'il existe une seule espèce humaine ou plusieurs espèces humaines. Bon. Et pourquoi croit-on que c'est ce corps-là qui nous donnera la réponse ? Parce que tout simplement, au 18e, au 19e siècle encore, on se pose ce genre de questions. Et s'il est un peuple capable de nous apporter la réponse, c'est, croit-on toujours, les Hottentots. Voilà, les Hottentots, ce peuple le plus marginal. On a décidé qu'il était le peuple le plus marginal de l'espèce humaine et par conséquent le plus susceptible de contenir en lui-même la preuve, soit de son appartenance au même ensemble que nous autres, voilà, soit son appartenance à un autre ensemble animal ou à un autre sous-ensemble humain. C'est donc en quelque sorte le test. Hein, les Hottentots, les Khoekhoe, c'est le test suprême d'appartenance et qui permettra de répondre à la question de l'unicité ou du caractère multiple de l'espèce humaine. En quelque sorte, c'est au sein de ce peuple, pense-t-on, qu'on va trouver l'indice. L'indice suprême, comme dans une affaire policière, l'indice définitif qui permettra de décider. Et puis des Hottentots, on n'en a pas tant que ça sous la main. Il y a donc cette femme, la Vénus Hottentote, et qui présente un certain nombre de caractères physiques, notamment des très grosses fesses, ce qui explique qu'on lui ait donné toute une série de sobriquets, notamment celui de Vénus Stéatopige, hein, pour imiter le terme de Vénus Calipige, Vénus aux belles fesses de la statuaire grecque. Elle, on l'a appelée Vénus Stéatopige, aux fesses grasses. Et on se précipite sur son corps dès qu'elle est décédée pour ouvrir ce corps et voir ce qu'il y a dedans. Et la question est posée en termes d'anthropologie physique. Y a-t-il dans ce corps un os en plus ou pas par rapport à nous ? Y a-t-il un os en plus ou pas ? Bon. Y a-t-il un organe en plus ou pas ? S'il y a un organe en plus ou s'il y a un os en plus, clairement, elle n'appartient pas au même ensemble que moi. Et Cuvier dissèque avec cette question-là en tête. Et sa réponse est absolument formelle. J'observe, écrit-il, j'observe exactement la même chose que chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'os supplémentaire. Bon. Et dans ces fesses en particulier, il n'y a pas d'os supplémentaire. Elle n'a aucun organe surnuméraire, elle est faite exactement comme nous, à la différence, dit-il, d'un cerveau plus petit qui me fait penser qu'elle penche plutôt vers le bas de l'espèce humaine, mais néanmoins, il y a une seule espèce humaine. Bon. Mais l'affaire n'en reste pas là. C'est-à-dire que lui publie son rapport de dissection, et dans tout le 19e siècle, il y a des débats. Il y a des débats, c'est-à-dire qu'on soupçonne, comme aujourd'hui avec les fake news, on soupçonne que Cuvier est l'auteur d'une fake news. C'est bon. Il y a encore des gens, anthropologues américains du milieu du 19e siècle, qui soupçonnent Cuvier d'avoir rédigé un faux rapport, tout simplement pour plaire, par politically correctness, oui, c'est-à-dire que par political correctness, juste pour pouvoir satisfaire le lobby, en quelque sorte, des monogénistes. Bon. Donc ces débats continuent, à la faveur aussi d'autres visites de groupes hottentots tout au long du 19e siècle, exhibés en Europe, etc. Donc voilà, donc il y a une attention là, portée sur un corps, parce que ce corps, croit-on, détient une preuve, et qu'en l'ouvrant, on va trouver cette preuve. Et si on en est convaincu, c'est parce que ce peuple joue depuis très longtemps ce rôle de test, ce rôle de marge anthropologique où se décide la vérité sur notre espèce et sur son ancrage au sein de la diversité animale.
Et c'est pour ça que cette Vénus Hottentote, Sarah Bertzmann, a une utilité pour les sciences européennes aussi cruciales. Vous remettez bien ces débats, parce qu'il y avait, vraiment ce questionnement. Il faut qu'on se rende compte aujourd'hui que, effectivement, la science a eu des questionnements parce qu'elle n'avait pas d'éléments pour pouvoir prouver, et que la science est quelque chose qui cherche à prouver. Pour cela, il fallait donc, bien entendu, autopsier le corps de la Vénus Hottentote. Autre question dans votre livre, celui des descendants des Khoekhoe. Vous écrivez qu'il n'y a plus de descendants, mais que certains s'en réclament, certains groupes, parce que nous avons affaire à un groupe qui les Khoïkhoï auraient disparu, et ceux qui s'en réclament actuellement en Afrique du Sud ne sont pas à proprement parler des Khoïkhoï, mais ils s'en réclament parce qu'ils ont, ils ont des raisons. Ils pourraient avoir leur propre généalogie, et ça leur ouvre des voies d'avenir également.
Tout à fait. Alors, après le chapitre dont on vient de parler, qui abordait la question, en quelque sorte, dans la longue durée de l'identité biologique, y a tout un chapitre dans ce livre qui aborde un autre aspect qui est l'identité psychologique. Bon, c'est-à-dire que, et qui cherche à répondre à cette question, à quoi appartient-on, d'où descend-on, comment choisit-on sa généalogie. Le point de départ de ça, c'est qu'en effet, des groupes revendiquent au moment de la restitution du corps de Sarah Bartman à l'Afrique du Sud, des groupes revendiquent leur appartenance Khoïkhoï. Des groupes disent nous nous sommes longtemps tus, mais maintenant notre voix peut porter, voilà, écoutez-nous, entendez-nous, et rendez-nous le corps de Sarah Bartman. Une attitude souvent rencontré dans le public ou même d'ailleurs chez les anthropologues consisterait à ironiser devant ces voix qui réémergent. On a tendance, on a envie de leur demander, mais enfin, comment pouvez-vous être Khoïkhoï alors que vous avez cessé de l'être? Bon, que signifie donc de réclamer cette identité alors que vous ne parlez pas la langue? Vous voyez bien que c'est ce genre de questionnement, ce genre d'ironie a des échos tout à fait contemporains. Enfin, genre, bon, face aux revendications et face aux affirmations identitaires. Donc en effet, il y a cette tentation ironique d'aller questionner la légitimité de l'identité dès lors qu'elle ne s'ancre pas dans des pratiques vestimentaires, dans des pratiques linguistiques, dans des pratiques alimentaires, dans une authenticité. Bon. Mais j'ai envie de demander comme historien, qui sommes-nous pour juger de l'authenticité d'une identité? Et c'est autour de cette question que s'élabore toute une partie de mon livre, qui constate bel et bien dans l'histoire d'Afrique du Sud la disparition des Khoïkhoï, mais la disparition comme peuple. C'est-à-dire que très rapidement le peuple Khoïkhoï a disparu au tout début du XVIIIe siècle, mais ça n'a pas empêché des individus, comme ça ne l'empêche jamais, de survivre, hein, de se faire leur chemin à travers l'intérieur de la colonie, de faire disparaître, certes, leur langue, etc., leur apparence, voilà, mais de se faufiler dans les marges, bon, et de cette façon-là, de continuer à exister en tant qu'individu. Et à regarder les choses de près, c'est-à-dire à regarder en réalité les choses à travers les archives, comme je le fais dans le livre, on voit bien que ces Khoïkhoï n'ont finalement jamais complètement disparu, mais ont fini par pénétrer les généalogies de beaucoup de groupes sociaux en Afrique du Sud. Et là, apparaît une autre chose très intéressante, c'est dans ces généalogies très multiples, très réticulaires, très fouillées, où tous les groupes sociaux et de toute origine s'entremêlent, s'interpénètrent, se métissent, etc., etc. Comment choisit-on là-dedans ces ancêtres? Il y a souvent une anecdote que je donne, c'est qu'on a vu, après l'apartheid, on a vu des familles blanches, des familles d'origine afrikaner de la région du Cap, qui pendant tout l'apartheid avaient soigneusement rappelé qu'elles descendaient de tel personnage, de tel colon, hein, au nom véritablement hollandais, hein, qui était venu s'installer au Cap au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. Mais tout à coup, à la fin de l'apartheid, à partir des années 90, on voit ces mêmes familles afrikaner choisir de mettre en exergue plutôt que l'ancêtre qui a transmis le nom, plutôt que l'ancêtre blanc ou l'ancêtre hollandais qui a transmis son nom, de mettre en exergue quelqu'un d'autre dans la généalogie. Et c'est qui ce quelqu'un d'autre? C'est une femme Khoïkhoï, par exemple, ou bien un descendant d'esclaves, ou bien ceci, ou bien cela. Bon. Pourquoi? Parce que les généalogies sont toujours multiples. Parce qu'on fait, depuis aujourd'hui, on fait toujours des choix utiles. On choisit toujours l'ancêtre utile de nos généalogies. Et que bien sûr, pendant l'apartheid, l'ancêtre utile n'est pas le même que l'ancêtre utile après la fin de l'apartheid. Eh bien, les Khoïkhoï ont fait la même chose. C'est-à-dire que ce peuple disparu, qui n'a pas laissé dans l'histoire sa langue, qui n'a pas transmis ses pratiques, ses croyances, etc. Ben néanmoins, quelque chose s'est transmis qui est de l'identité. C'est-à-dire que c'est aussi immatériel qu'une langue, c'est aussi immatériel que des croyances, c'est de l'identité. Et l'identité, ça existe bel et bien en dépit de son immatérialité.
Et tout ce que vous venez de dire se résume par cette question que vous posez et qui est absolument magnifique, c'est comment peut-on devenir Khoisan, donc Khoikhoï, ou le redevenir quand on a cessé de l'être, ou le redevenir quand on a cessé de l'être. C'est vraiment une question magnifique auquel vous venez de répondre. On comprend que votre intérêt pour les Khoikhoï, il continue dans votre titre à la recherche du sauvage idéal. Sauvage et idéal. Ça, c'est important parce que le statut pris par les Khoisan dans la construction du regard européen sur l'Afrique, c'est aussi l'histoire des dispositifs de validation des connaissances sur la diversité humaine. On en a parlé avec la Vénus hottentote et comment Cuvier et comment le corps a été donné à la science. Il y a cette construction du regard européen sur l'Afrique qui s'est jouée justement par les Hottentots, qui s'est joué par ce que vous appelez la recherche du sauvage idéal.
Oui, alors c'est, si les Khoïkhoï sont devenus, sont à mes yeux aussi exemplaires de ce qui s'est passé avec la rencontre ratée hein, des puissances européennes, des sociétés européennes avec les autres, à partir du 15e, 16e, 17e siècle, bon, lors de ce grand mouvement d'expansion à travers le globe, si les Khoïkhoï sont aussi exemplaires, c'est parce que les Khoïkhoï, d'abord, ont été parmi les premiers rencontrés, puis surtout, étaient en plein milieu du chemin. Ils étaient en plein milieu du chemin. C'est-à-dire que lorsque on ouvre, lorsque les puissances européennes, portugaises d'abord, puis hollandaises, puis tout le monde derrière eux, ouvrent la route des Indes, cette route, on a mis un siècle avant d'arriver à l'ouvrir, avant d'arriver à la tailler, comme ça, autour de l'Afrique. Et puis, cette route, c'est la plus longue possible. Mais c'est un raccourci exceptionnel qui relie l'Europe aux Indes orientales. Et cette route passe forcément par le bout de l'Afrique. Le bout de l'Afrique, c'est au milieu de cette route, c'est au milieu du chemin. C'est à la fois l'obstacle qu'on a mis un siècle à contourner, et en même temps le passage obligé. Tout le monde passe par là. Toutes les flottes du monde passent par là. La plus grande multinationale du XVIIe siècle, qui est la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, avec ses milliers de navires, voilà, bon, passe là plusieurs fois par an avec avec des dizaines de navires, bon, chargés dans un sens des produits qu'on va vendre en Inde, en Indonésie, en Chine, etc., etc. Et puis chargés dans l'autre sens avec les richesses qu'on rapporte, les épices, les céramiques, etc., bon, l'or, etc., qu'on rapporte. Bon, très bien. Et tout le monde passe là. Je disais, c'est à la fois un obstacle et le point de passage obligé. Ben, les Khoïkhoï, c'est la même chose. Les Khoïkhoï s'inscrivent dans la diversité humaine comme le peuple surnuméraire, le peuple qui ne compte pour rien dans l'économie de la circulation des objets de luxe à travers le monde et qui en même temps s'impose de lui-même sans avoir rien fait pour ça. Et ces Khoïkhoï vont très très vite disparaître. Non, ces Khoïkhoï vont être d'abord laminés par la colonisation et puis ensuite très vite une épidémie de variole début 18e siècle qui en élimine allez, 95% d'entre eux. On les voit disparaître des archives du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est-à-dire on voit disparaître les Khoïkhoï des archives. Bon, ils sont omniprésents jusqu'en 1713, et puis à partir de 1714, on n'en voit plus. On voit plus, on ne parle plus de Khoïkhoï dans les archives. Bon. Et donc, ils disparaissent des archives. Et pourtant, on a absolument besoin de penser ce peuple du bout du monde, ce peuple à la limite, ce peuple qui est sur la charnière, sur le point de passage entre l'Occident et l'Orient, ce peuple qui est à la charnière entre notre espèce humaine et le reste, croit-on. Bon. Et on a besoin de le faire exister. Et on le fait exister comme une marionnette qui parle toute seule. Il n'y a plus besoin des Khoïkhoï pour faire exister le Hottentot. C'est dans ce sens-là qu'il y a une espèce de dichotomie. Il y a les Khoïkhoï réels, vrais, avec leurs vraies croyances à eux, le nom qu'ils se donnent, leur langue qu'ils parlent. Et puis il y a cette marionnette dont nous, notre pensée occidentale, a absolument besoin pour faire exister un sauvage idéal. Quelque rôle qu'on lui fasse jouer, qu'il s'agisse de lui faire jouer le rôle du bon sauvage, comme chez Rousseau, ou du mauvais sauvage, comme chez Voltaire, du sauvage noble, comme chez Rousseau, ou du sauvage ignoble, comme chez Voltaire. Dans tous les cas, c'est en quelque sorte la même marionnette. C'est la même marionnette, la même fiction philosophique, anthropologique, littéraire, qui traverse plusieurs siècles de notre regard sur l'autre avec un grand A, voilà, qui traverse toute la littérature de voyage, toute la philosophie anthropologique du XVIIIe siècle, et puis toute l'anthropologie physique, on a parlé tout à l'heure du XIXe siècle. Voilà. Donc le phénomène important, c'est celui-là, c'est celui qui m'a le plus frappé, que j'ai essayé de reconstruire, c'est cette dichotomie, c'est cette séparation entre un peuple vrai, un peuple qui a existé, un peuple qui a souffert, hein, un peuple qui a disparu. Et puis de l'autre côté, un peuple caricaturé, un peuple marionnette, bon, un peuple prolétarisé, parce qu'en fait, on le rencontre presque, on le touche presque dans les rues. Dans les rues du Cap, il y a des prostituées, au tantôt. Il y a des portefeuilles, il y a des pauvres types. Bon. Et on veut croire à toute force que ce sont eux, les authentiques, coy-coy, sales, puants, dépenaillés, bon, en guenilles. Et c'est à eux qu'on fait jouer le rôle de cette marionnette du Hottentot qui tient si bien la route. Bon. Il est omniprésent dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, hein, ce Hottentot. C'est pourquoi il m'a fallu autant de temps pour comprendre comment écrire ce livre-là, c'est-à-dire pourquoi il était nécessaire de l'écrire à l'envers. Il était nécessaire de l'écrire à l'envers pour aller écarter des voiles successifs, voilà. pour en quelque sorte enlever des couches qui s'étaient accumulées successivement, un peu comme un archéologue, hein, genre, voilà, procéder, remonter dans le temps en enlevant des couches, pour déshabiller cette marionnette, voilà, qui finalement ne faisait que nous masquer. Voilà. Ce qu'avaient été les coïcoïs. J'ai mis très longtemps pour comprendre que je ne pouvais pas prétendre à avoir un accès direct, intuitif, naïf, omniscient avec ce qu'avaient d'abord été les coïcoïs avant la rencontre. Il fallait pour ça prendre en compte tout ce que la rencontre avait fait, non seulement aux coïcoïs, mais à notre regard, à nous. Et c'est pourquoi il fallait remonter dans le temps, voilà, pour déshabiller ce regard-là, voilà, pour nous déshabituer, pour nous prévenir. Bon. Et si le tout dernier chapitre du livre est celui de cette rencontre-là, alors, il est en réalité pas juste un chapitre parmi d'autres, il est en réalité la pierre centrale de l'édifice vers lequel j'essaye de remonter pour organiser cette rencontre, cette nouvelle rencontre, cette re-rencontre, mais en étant cette fois prévenu contre tout le mal, voilà, que fait la rencontre à l'autre et à notre regard.
On va donc parler de cette dernière partie, ce chapitre 5, qui s'intitule « Avec les coïcoï », sous-titré « Notes tirées d'un impossible carnet de terrain ». Cette dernière partie rejoint l'ambition de votre livre, rejoint l'écriture de ce livre, et on conclura avec l'écriture de ce livre et la méthode juste après que vous me parliez comment vous avez écrit avec les coïcoï, notes tirées d'un impossible carnet de terrain. Alors on le sait parce que juste après avoir lu cette quarantaine de pages, il y a la boîte noire du livre, comment a été écrit ce livre, et là on comprend. Cette inversion va jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est jusqu'à une inversion méthodologique aussi. Donc comment avez-vous écrit ces notes tirées d'un impossible carnet de terrain ?
Alors, tout d'abord, c'est lorsque j'ai eu compris comment j'allais écrire ce chapitre que le livre s'est imposé. C'est-à-dire que le livre a longtemps été retardé. Bon. Entre le moment où les composantes de ce livre ont commencé à être écrites il y a 20 ans de ça, bon, et le moment où j'ai compris que j'allais en faire ce livre-là, bon, il s'est passé 20 ans. Et ce qui m'a toujours manqué jusqu'à ce moment-là, ça a été cette brique finale, ce chapitre 5. Voilà. Quand j'ai compris qu'il fallait que je remonte là, il fallait que je remonte et raconte ce qu'avaient été les coïcoïs, à ce moment-là, l'architecture du livre s'est imposée d'elle-même. Et j'ai compris à ce moment-là pourquoi je ne pouvais pas écrire le livre dans l'autre sens. Pourquoi je n'aurais jamais pu écrire le livre dans l'autre sens ? Pourquoi je n'aurais jamais pu commencer par un chapitre sur les coïcoïs ? Pourquoi? Bah parce que d'abord, vous m'auriez demandé, mais enfin, comment le savez-vous? Qui sont les Khoïkhoï? Et j'aurais été obligé de vous dire, bah, je le sais parce que j'ai fait tout ce travail consistant à repartir du présent et à remonter dans le temps. Donc finalement, je vous aurais raconté, pour justifier ma connaissance des Khoïkhoï, voilà, j'aurais dû vous raconter l'histoire dans le sens de ce qui est réellement arrivé, c'est-à-dire dans le sens finalement dans lequel je l'ai écrit au final. Et puis, alors ce chapitre procède aussi d'une autre façon qui est par note, comme le dit son titre ou son sous-titre, c'est-à-dire par fragments en quelque sorte. Bon. Pourquoi ça? Parce que je ne peux pas, à la différence d'un ethnologue qui pourrait se rendre chez les Nambikwara ou chez les Trobriandes, bon, je ne peux pas, moi, passer 3 ans chez les vrais Khoïkhoï et produire un savoir complet, un savoir circulaire, un savoir encyclopédique, un savoir continu, sans lacune, sans trou. Bon. Je ne peux pas y retourner non plus pour aller vérifier ce que je n'ai pas collecté à mon premier terrain. Bon. Et par conséquent, je dois accepter... je dois accepter que la vérité à laquelle j'accède, à travers toute une série de filtres, à travers toute une série de filtres que je lève, à travers toute une série de voiles que j'écarte tout au long du livre, à travers toute une série de précautions que je plante à l'usage de la lectrice et du lecteur. Voilà, je ne peux vous proposer qu'un savoir incomplet. Je ne peux vous proposer qu'un savoir incomplet. Un savoir incomplet sur ce peuple qui est un peuple en lambeaux. Je ne peux vous proposer que des lambeaux réunis d'un peuple. Bon. Alors certains de ces lambeaux sont beaux, c'est-à-dire que la langue des Khoïkhoï, personnellement, je la trouve magnifique et on peut en restituer des morceaux, leurs croyances dans les esprits. On peut en reconstituer des morceaux, leurs pratiques alimentaires, assez originales, faut bien le dire, assez singulières. Voilà, on peut en reconstituer des morceaux, mais toute une série de choses me manquent. Quoi. Le système de parenté ne peut être reconstruit que par tout petits fragments. Mais néanmoins, on peut reconstituer aussi leurs itinérances, on peut reconstituer toute une série de choses, le rôle des chefs, le rôle des hommes gros. Alors, toute une série de choses comme ça qui sont tout à fait fascinantes et qui dessinent un peuple tout à fait singulier, voilà, dont on comprend en le dessinant, en l'écrivant, bon, qu'il manque authentiquement à la diversité de notre monde.
Et c'est ça qui fait ce dernier chapitre vraiment captivant. Et c'est pour ça qu'il fait sens effectivement d'être écrit à la toute fin, parce que, au fond, votre question principale, qui est sous-jacente, ça pourrait être celle-ci. Comment construire un livre d'histoire? On est bien d'accord, vous êtes historien. C'est un livre d'histoire. Il est paru au Seuil, mais dans la collection des livres d'histoire. Et votre question, ça serait comment construire un livre d'histoire sur l'autre foncièrement hétérodoxe à nous? Un autre qui nous est quasi inconnu. Comment est-ce qu'on écrit ce type d'histoire? Eh bien, vous auriez... trouver, je pense, après vous avoir lu, la bonne méthode.
Moi, je crois à l'émerveillement de la rencontre. Voilà. Et c'est ça que j'ai cherché à restituer, c'est l'émerveillement. Voilà. Il y a quelque chose qui émerveille dans le fait de rencontrer quelqu'un d'autre. On le sait tous à nos échelles individuelles, c'est ce qu'on recherche dans une rencontre individuelle. Mais c'est ce qu'il est beaucoup plus difficile de faire à l'échelle d'une société. Et moi, je pars d'un constat très personnel, c'est que j'aurais adoré rencontrer les Khoïkhoï au XVe siècle. J'aurais adoré. Bon. Mais évidemment, si je m'étais trouvé parmi les équipages des navires portugais de la fin du XVe siècle, je me serais comporté comme eux, sociologiquement, comme eux. Bon. C'est-à-dire que tout ça aurait finalement conduit au résultat fatal qui s'est produit. Donc ce qui n'est accessible à l'historien, ça n'est que de reproduire une rencontre, de réorganiser une rencontre à distance. Bon, cette rencontre impossible, on peut néanmoins la réorganiser littérairement. Bon, Et en nous prévenant contre ça, voilà, en prévenant les lecteurs contre le mal que ça fait une rencontre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est de renouer avec cet émerveillement-là. Et pourquoi là aussi le faire à l'envers? Parce que le merveillement, ça se paye. Ça ne se paye pas d'un livre trop long, ça se paye d'un livre de 200 pages, mais ça se paye néanmoins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer par ça. On ne peut pas commencer par l'émerveillement de la description d'un peuple totalement différent de nous, voilà, à l'autre bout du monde, à l'opposé, voilà, de la diversité de l'histoire humaine. Commencer par là et puis ensuite et ensuite se contenter de raconter les épisodes successifs de la longue tragédie de la disparition de l'autre. Enfin, bon, chose où vous m'auriez dit après 80 pages, mais en fait, on sait déjà où ça va. Ben oui, on sait déjà où ça va. Alors, puisqu'on sait déjà où ça va, autant commencer par là. Autant commencer par là où ça va, c'est-à-dire la fin. Bon, c'est-à-dire la fin, c'est-à-dire la réémergence d'identité actuelle, toutes ces... Bon. Toutes les questions qu'on a abordées durant cette émission, et puis remontons dans le temps, remontons vers ce que nous ne connaissons pas, remontons vers ce qui va vous surprendre, remontons vers ce qui va nous émerveiller. Voilà. Et c'est pourquoi, effectivement, on en arrive à ça. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'arriver à ce chapitre final qui nous remet en contact, qui réorganise cette rencontre ratée avec les Koi Koi.
J'aimerais que nos conclusions avec... les derniers paragraphes de votre prologue, donc de votre introduction, et insister sur le fait que votre travail a consisté à mettre à jour ce qui n'a pas su être énoncé clairement. Je vous cite. « Du Hotonto au Koi-Koi, il y a bien davantage qu'une régression à travers le temps. Il y a l'incertain de l'être et de ses frontières. Et je découvre, à ce jeu amoureux, un plaisir inédit, celui de mettre au jour, tout soudainement, pour la voir s'articuler de guingois, mais la voir ainsi vivre quand même, une vérité qui avait été vue, entendue, su, pour paraphraser cette fois Roland Barthes, mais dont la sensation précise, ce qu'on appelle le savoir, ne s'était pas individualisée au sein du brouhaha de la rumeur informe dont les koi-koi avaient été l'objet. Ces lueurs vécues, je les restitue comme si j'y étais, car je ne veux pas renier l'émerveillement provoqué par la rencontre au bout de la piste avec eux. » Là, vous énoncez le programme de ce terme, de ce concept, qui est l'ethnophanie. J'aimerais qu'on conclue, comme on a introduit, avec l'ethnophanie. Parce que vous avez dit que vous avez mis 20 ans à trouver la solution pour faire ce livre. Et en gros, le terme, le concept qui résume, c'est ethnophanie. Ce processus intellectuel, historique, d'être en capacité de faire une rencontre avec l'altérité absolue, les koi-koi. Les koi-koi, pour cet exemple-là, mais on peut imaginer de continuer à utiliser cette méthode qui pourrait être propre à l'ethnophanie pour d'autres autres.
Absolument, et j'espère, et s'il y a une leçon derrière ce livre, derrière cette ambition de retrouver les koi-koi, c'est bien celle-là, c'est-à-dire que c'est bien celle de retrouver l'émerveillement dans la rencontre, c'est bien celle de se dire que ce qui nous plaît dans une rencontre, c'est précisément la singularité de l'autre, pas l'identité avec soi-même, la singularité de l'autre, c'est ça qui émerveille. C'est à ça que nous cherchons à nous domestiquer nous-mêmes, à nous accoutumer. C'est bien la singularité avec l'autre. Et ça, évidemment, ça vaut dans les mises en présence avec les autres dans notre monde d'aujourd'hui. C'est évidemment une invitation à la générosité, à l'accueil. Mais c'est aussi une invitation à tout simplement une philosophie et une sagesse personnelle d'ouverture. À l'autre et à la singularité des rencontres.
Merci beaucoup, François-Xavier Fauvel. Merci.